Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats.
Je suis Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration.
Vous écoutez le podcast Génération Avocat Entrepreneur.
La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation.
Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit.
Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Formé entre la France, les États-Unis et Hong Kong, notre invitée est experte en négociation de rémunération et occupe un poste de juriste dans une grande banque. Après une expérience personnelle d'inégalité salariale, elle se donne pour mission d'aller à la rencontre de toutes les femmes du monde pour les aider à combattre cette injustice. Un tour de France puis un tour du monde et 5000 personnes accompagnées plus tard, elle crée Ma Juste Valeur pour rendre sa méthode accessible à tous et en ligne. Elle coécrit un livre, la fille est épuisante, qui s'appelle « Autune citoyenne » pour que les femmes de ce monde reprennent le pouvoir sur leur argent. Alors, on a décidé de faire cet épisode parce que les questions de nos confrères qui sont posées sont toujours les mêmes. Pour les collabs, c'est « Combien je vaux ?» Pour les associés, c'est « Est-ce que le partage de la rémunération entre les associés du cabinet est juste ?» Et vis-à-vis du client, c'est « Comment fixer mes honoraires ?» C'est la première fois qu'on s'attaque à ces sujets dans notre podcast. On espère qu'après cette écoute, vous aurez une meilleure appréhension de votre juste valeur. C'est pourquoi on est ravis de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Insaf El Hassini, fondatrice de Ma Juste Valeur. Bonjour Insaf.
Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. Merci pour cette invitation.
Ah bah avec plaisir. Alors Insaf, en quelques mots, si tu pouvais te présenter, on commence toujours par la même question. Qui es-tu ? Insaf, qui es-tu ?
Je suis épuisante, comme tu viens de le dire.
Oh, tu es épuisante, ça c'est sûr.
Je me fatigue moi-même. Alors, je suis Insaf El Hassini, je suis avocate de formation. Aujourd'hui, j'occupe un poste de directrice juridique dans une grande banque européenne. Je suis également la fondatrice de Ma Juste Valeur, qui est une entreprise de formation et de coaching et qui apprend aux personnes, notamment les femmes, à négocier des rémunérations, peu importe comment elles se déclinent, que ce soit des salaires, des tarifs, des honoraires, des traitements quand il s'agit de fonctionnaires à leur juste valeur. Et je suis aussi l'hôte d'un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur, qui fait aujourd'hui plus d'1,5 million d'écoutes et qui traite des sujets de la négociation de rémunération dans son ensemble et qui a aussi pour objectif de dépassionner le débat sur les sujets d'argent, d'empouvoirer notamment les femmes à oser en gagner plus et à désacraliser un petit peu ce sujet d'argent. L'idée en filigrane de tout mon travail, c'est de mettre un terme au travail gratuit des femmes, notamment entrepreneurs, et de mettre un terme aux inégalités salariales. J'ai aussi coécrit, comme tu l'as très justement dit, un bouquin qui s'appelle Ma Juste... Non, pardon, je reprends.
Non, c'est au-dessus.
Ouais, j'ai aussi coécrit un bouquin avec Héloïse Boll, d'Oseille et compagnie, qui s'appelle « Autune citoyenne, au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent ». Et donc, on a eu l'ambition avec Héloïse d'écrire un bouquin de référence qui pourrait servir à toutes les femmes tout au long de leur vie. Et moi, ma partie, c'est l'argent au travail. Donc, comment on négocie ses salaires, ses tarifs, ses honoraires, quel statut mettre en place quand on est entrepreneur, entrepreneuse, profession libérale, comment vendre ses prestations. Et Héloïse, elle aborde toute la partie l'argent à la maison, donc les finances personnelles, et notamment comment mettre en place un budget, comment dégager de l'épargne, comment investir, dans quoi investir, pourquoi investir. Et en plus, on a eu la chance plutôt d'avoir Estelle Bi, que vous devez connaître, qui est avocate.
Qu'on a interrogé.
Exactement, que j'embrasse et que je salue, qui m'a fait l'amitié et nous a fait l'amitié d'intervenir sur les sujets de statut d'entreprise. Et on a aussi Noua Delafi, que j'embrasse également, qui nous a fait l'amitié de participer sur tous les aspects force de vente et comment vendre ses prestations sans tordre le bras à ses clients. Et voilà, et on est très ravis de ce bouquin. Et comme tu l'as dit, je suis très ravie de ce bouquin, point.
Mais alors, en tous les cas, elle fait beaucoup. En tous les cas, t'as été occupée, quoi.
Ouais, j'ai été un peu occupée.
Mais il y a combien de temps tu as commencé ce combat? Il y a eu un élément déclencheur. Enfin, Audrey disait dans l'introduction que c'était suite à une inégalité, mais c'était une inégalité ou c'était un... Enfin, comment ce combat est né en toi, en fait?
Bah, il est né il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, où en fait j'étais déjà juriste dans une société d'investissement et concrètement, voilà, j'avais un profil qui était très prestigieux. Comme tu l'as dit, j'ai fait mes études entre la France, les États-Unis, Hong Kong, j'ai le barreau d'Hong Kong et j'étais particulièrement brillante et je le dis en toute humilité, mais j'étais bonne dans ce que je faisais. Et en fait, à la saison des bonus, donc la saison des annonces des avancements professionnels, j'ai découvert, au détour de la machine à café, que mon collègue, qui avait un profil beaucoup moins prestigieux que le mien, qui concrètement contribuait beaucoup moins à l'entreprise et contribuait beaucoup moins à générer de la richesse économique à l'entreprise, était payé plus que moi. Il était payé 5 000 euros brut par an de plus que moi, et en plus, il avait eu un bonus plus conséquent que le mien. Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis pris une claque dans la figure, en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte de la condition des femmes sur le marché du travail. Parce que pour moi, avant tout ça, pour moi, si tu veux, avant le féminisme, c'était des combats d'antan. On était venus, on avait vu, on avait vaincu. Et aujourd'hui, voilà, c'était du passé. Et en fait, je me suis aperçue que dans le monde du travail, c'est pas du passé. C'est vraiment des discriminations qui sont vraiment latentes, sous-jacentes, on les voit pas, on va pas te discriminer voilà, de manière
De
on va
façon
pas te,
évidente, quoi.
voilà, de façon évidente, on va pas te dire bah non, je te donne pas ce poste-là parce que tu es une femme, ou non, je te donne pas cette rémunération-là parce que tu es une femme, ou je te donne une rémunération inférieure que ton collègue parce que tu es une femme. En revanche, on va le faire parce que on a des biais de genre qui font que bah voilà, les femmes encore, le revenu des femmes est encore considéré comme un revenu d'appoint. On va encore te discriminer quand tu rentres ou que tu pars en congé maternité. Et on le voit aussi chez les avocates, hein. C'est un vrai sujet, ça, la discrimination ou le fait d'arrêter la collab parce que les avocates sont enceintes, parce que les femmes sont enceintes, etc. Donc, c'est des discriminations qui sont plus sous-jacentes et qui sont directement liées à la valeur de la personne, notamment ici des femmes, parce que les inégalités salariales, c'est concrètement te dire que ce que tu produis comme travail a moins de valeur qu'un homme juste parce que tu es une femme. Ce qui n'a absolument aucun sens.
Ouais,
Et
alors,
ce qui...
ouais,
Vas-y,
pardon,
Rémi.
excuse-moi. Non,
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 je voulais. Ce que je veux
mais
dire, c'est que là, ça, c'était, ça, c'est comment est né ton combat. Et maintenant, je veux dire, ça, c'était ce qui t'a motivé au démarrage. Et maintenant, peut-être, et c'est l'objet du podcast, c'est juste là, pour le coup, c'est de démocratiser et d'arriver à se positionner, puisque quand tu es collab ou quand tu es indépendant, mais même en fait, même en cabinet, en fait, je ne sais même pas, c'est juste toi vis-à-vis du client, quand tu as de multiples clients et que tu travailles avec des missions qui sont différentes, c'est comment est-ce que tu fixes la valeur de tes missions? Et c'était ça l'objet de ce podcast, d'aider les gens à fixer ces deux choses-là en les accompagnant. Et peut-être qu'on peut commencer par les collabs, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, avec plaisir. En fait, juste pour terminer sur la précédente question, quand j'ai vécu cette inégalité salariale, j'ai aussi réalisé une réalité qui est que quand tu vas à l'école, on t'apprend un métier, en l'occurrence, on t'apprend à devenir avocat, avocate, juriste d'entreprise, mais on t'apprend jamais à gagner ta vie. On
Ça,
t'apprend
c'est vrai.
pas à négocier ton salaire, on
Non.
t'apprend pas à aller chercher la valeur de ton profil pour aller négocier ta rétrocession après, on t'apprend pas comment fixer tes honoraires. On ne t'apprend pas tout ça.
C'est
Et je
vrai.
me suis dit, c'est pas possible. Quand tu tapes sur Internet, tu fais des recherches, tu trouves énormément d'informations sur tout, notamment comment apprendre à tes enfants négocier comme un agent du FBI pour que tes enfants rangent leur chambre en 5 minutes top chrono. Mais on ne t'apprend pas à négocier ton salaire ou tes rétrocessions ou tes tarifs, etc. Et je me suis dit, mais c'est une ineptie pour moi. Et donc, j'ai leveragé sur le fait ben, que moi, dans mon job, je passais mon temps à négocier des gros contrats à plusieurs milliards. Que la première chose que j'ai appris, c'est que ce qui faisait qu'un contrat, et on le sait tous, hein, on est tous des juristes, des avocats, des avocates, si on veut qu'un contrat fonctionne, il faut qu'il soit équilibré. S'il est déséquilibré, il y a un moment donné, on le sait, il ne sera pas pérenne et il finira par la partie qui subit le contrat finira par le casser, en tout cas par ne pas tenir ses engagements. Et donc, ça génère une perte de temps, d'énergie et d'argent. Et donc, voilà, j'étais affûtée à toutes ces techniques contractuelles-là. Et puis aussi, je me suis dit, mais INSAF, c'est quand même assez incroyable. Quand tu mets en vente un appartement sur le marché de l'immobilier, ça viendrait à l'esprit de personne de laisser l'acheteur décider du prix de vente. Or, sur le marché du travail, quand tu postules à une annonce de collab, quand tu discutes avec un client pour mettre en place tes honoraires, etc., on a tendance à être dans la posture de laisser l'acheteur de notre service, d'accord, décider du prix de vente de nos compétences, de notre expertise et de notre expérience.
Bah, ce n'est même pas une tendance, c'est obligatoire quand on est jeune collab. On n'a aucune
plus,
marge
tu vois,
de manœuvre.
Tu as peu de marge de manœuvre. En tout cas, on te fait croire que tu n'as pas de marge de manœuvre. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faut absolument la négociation. On a le sentiment que l'impression dans l'inconscient collectif que c'est une technique de sioux qui permet de mieux filouter ton interlocuteur ou ton interlocutrice. C'est faux. La négociation, c'est comment tous les deux, on part de points qui sont différents et comment on se retrouve au milieu pour trouver un compromis qui correspond à tout le monde et qui est basé sur des données qui sont consacrées. C'est ce qu'on appelle les données de marché. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis en place la technique Ma Juste Valeur. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est que quand tu es jeune collaboratrice ou jeune collaborateur et que tu viens de terminer l'école et que tu es en train de rechercher une collaboration, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme tu l'as justement précisé, Charlotte, tu vas avoir tendance à abandonner ton pouvoir financier, à penser qu'il y a des grilles de rétrocession, le cabinet a ses grilles, et donc d'attendre que le cabinet que tu vas rejoindre va décider de quelle est la valeur de tes diplômes, quelle est la valeur de tes qualifications, quelle est la valeur de ton expérience, de ton expertise, de ta technicité. Et en fait, moi, ce que je propose...
Ah, elle s'est étouffée.
Et en fait, moi, ce que je propose, c'est aux personnes de reprendre leur pouvoir financier. Et reprendre son pouvoir financier, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, dans un premier temps, déterminer quelle est la valeur de ton profil sur le marché du travail. Et déterminer la valeur de son profil quand on est jeune collaborateur ou jeune collaboratrice, c'est quelque chose qui peut se faire de manière extrêmement simple. Et moi, je partage une méthode dans tous mes enseignements qui s'appelle la méthode du faisceau d'indices. Et en trois étapes, en 2 heures de temps ou une demi-journée pour les plus, pour ceux qui préfèrent prendre le travail plutôt à la cool, tu es en mesure de faire émerger une fourchette qui sera capable de te dire bah, un avocat collaborateur ou une avocate collaboratrice dans cette spécialité-là, droit des affaires, propriété intellectuelle, droit de la famille, whatever, eh ben, ta fourchette de rétrocession qui est la plus vraisemblablement applicable à ton profil, est entre A et B.
Ouais, ouais, je comprends.
Et toi, à partir de cette information-là, tu peux discuter avec le cabinet qui va te recruter. Et tu vas pouvoir discuter avec ce cabinet-là en ayant pleinement conscience de ta juste valeur. Et donc, on ne va plus tomber dans les écueils qu'on connaît toutes hein, et qu'on connaît tous, qui sont... les annonces qui sont à la recherche d'un avocat ou d'une avocate collaborateur, collaboratrice qui sont payées au SMIC. Parce que...
Oui, mais parce que, en fait, ce que moi, j'aime bien dans la façon dont tu présentes les choses et j'aurais aimé que tu le développes, c'est que en fait, la façon dont tu présentes les choses aussi, c'est aussi donc c'est une reprise de pouvoir financier, c'est-à-dire savoir combien je vaux et donc tu fais l'analogie qui est, à mon avis, une analogie très marquante de quand tu vends ton appart, bah, c'est pas, tu vois, tu vas vérifier combien les apparts se vendent dans ton truc et tu vas a priori, donc soit tu tapes un peu plus en haut du marché, soit tu tapes un peu plus en bas du marché, soit tu tapes le prix du marché, mais tu sais, en fait, disons que t'as une vision claire de quel est le marché et c'est quoi. Donc, je comprends très bien quand tu dis faire une analyse. En fait, ce que tu dis, c'est faites une analyse de marché, soyez des vrais entrepreneurs, faites une analyse de marché de combien vous valez ou combien votre profil vaut sur le marché du travail, puisque globalement, des annonces de collab, il y en a quand même vraiment beaucoup. Tu dis aussi, tu as les annonces de collab, puis c'est en parler autour de soi aussi. Savoir alors après, les gens
après,
partagent pas, mais bon, que jeune collab, tu dis combien tu es payé quand même.
Bah, la
Ça, c'est
réalité, c'est
après.
qu'on pense que les gens lâchent pas, mais les gens lâchent, ils sont ravis de t'aider. Et c'est
Ouais,
comme
tu dis,
ça
j'ai
qu'on
un
lâche.
besoin. Oui, c'est parce qu'en fait, la démarche, c'est j'ai besoin de me positionner. S'il te plaît, dis-moi. Oui,
Dis-moi
ok.
combien tu gagnes, c'est ça?
Et à la limite, tu n'es même pas obligé de te dire, et je détaille tout dans ma méthode. Hein. Ma méthode, c'est la méthode du faisceau d'indices. Et comme je disais, en trois étapes. La première chose, c'est que tu googlises un peu l'intitulé de ton poste, je dirais, ou de ta
Ouais.
spécialité. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une avocate ou d'un avocat qui a une spé en droit de la propriété intellectuelle, il peut très bien faire, ou elle peut très bien faire sur Google, avocate, collaboratrice junior, propriété intellectuelle, rétrocession. Et là, déjà, elle a des informations qui vont venir. Et à partir de là, elle va sortir une fourchette hyper large. Parce que tu auras des informations de la rétrocession que tu es vraisemblablement en mesure d'obtenir si tu habites à Lille et celles que tu es en
Ouais,
mesure
c'est
d'obtenir
sûr.
à Paris. Donc, tu as tout un maquis d'informations qui arrive. Mais tu as une fourchette qui est assez large. Et après, c'est vraiment la méthode de l'entonnoir. En partant de cette fourchette, tu vas interroger les membres de ton réseau. Et les membres de ton réseau, c'est les personnes qui exercent sur la même fonction que toi, les mêmes avocats ou avocates, collaborateurs, collaboratrices du même niveau d'expérience, dans le même secteur géographique et dans la même aussi spécificité de cabinet. On sait bien que quand tu travailles
Ouais, bien sûr, avec un
dans
cap de
un
deux
cabinet
personnes ou un cap
multinational,
de. Bien
voilà,
sûr.
si c'est un cabinet anglo-saxon, ça ne sera pas la même rétrocession qu'un
Ouais,
cabinet
c'est sûr.
familial, un peu boutique, quoi. Voilà, et l'idée, voilà, c'est d'interroger donc les personnes de ton réseau, deuxième étape. Troisième étape, donc là, tu arrives à ramasser tout doucement, à rétrécir cette fourchette. Troisième étape, tu passes des entretiens sur lesquels il y a zéro enjeu. Aujourd'hui, la chance qu'on a quand on est avocat et avocate, c'est que il y a énormément de cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans le recrutement des avocats et des avocates. Et donc, les cabinets de recrutement et les recruteurs, c'est les acteurs du marché. Ils ont l'information, une des informations la plus précise. Donc, tu vas chercher l'information auprès des personnes qui la connaissent. Et donc, en passant des entretiens sur lesquels il y a zéro enjeu, ça te permet déjà, un, d'affiner au maximum ta fourchette et de passer d'une fourchette de 10 à 40 à une fourchette de 20 à 25. Et le deuxième avantage de passer ces entretiens-là où il y a zéro enjeu, c'est qu'en fait, tu t'entraînes à négocier. Tu t'entraînes à parler d'argent. Et ça, en fait, il y a... c'est priceless parce que, en fait, tu ne trouveras aucune manière de parler d'argent du jour au lendemain de manière assez confortable si tu ne t'entraînes pas. Et la meilleure manière de s'entraîner, c'est aller passer des entretiens sur lesquels il n'y a pas d'enjeu parce que justement, tu ne vas pas être prise dans cette confusion mentale ou dans ce tsunami émotionnel dans lequel tu peux être facilement prise ou que tu peux être facilement pris quand tu es face à un job que tu veux. Quand tu es face à un job que tu veux, en général, tu as tendance, voilà, à t'accommoder, à baisser un peu tes demandes, etc., etc. Parce que toujours, à l'arrière de ton esprit, tu as cette voix, tu as un peu ce tyran dans ta tête qui va te dire, surtout n'en demande pas trop, sinon ça va passer sous le nez.
Oui, ben ça c'est le principe qu'on fait tous, mais c'est d'ailleurs c'est valable pour les cabinets dans lesquels avec lesquels tu as envie de travailler ou chez lesquels tu as envie d'être embauché. C'est aussi valable pour tes clients. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi valable pour la. Enfin, j'imagine que on en parlera après, mais cette mécanique-là, mais c'est aussi valable quand tu dragues un mec, en fait. Quand tu le veux vraiment, t'es complètement
Enfin, c'est
débile.
valable dans tout.
En fait, c'est valable dans tout. J'étais en train de me dire, mais c'était
Tu veux.
pareil. C'est pareil. Bon, alors, moi, ce qui m'a surprise hein, quand j'ai écouté tes interviews et que j'ai écouté tes conseils sur ton podcast, parce que effectivement, j'ai parlé de tout ce que tu faisais, mais j'ai aussi oublié le podcast qui fait 1 million et quelques d'écoutes. Inutile de dire, Charlotte, qu'on a un peu de taf. Et c'est l'honnêteté intellectuelle que tu mettais dans ton raisonnement. Parce que ça, c'est pour l'embauche, mais aussi à la demande d'augmentation. Enfin, si tu veux, tu disais, tu es obligé aussi de mettre en face des efforts. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que je trouvais que c'était, enfin, je trouvais que c'était assez bah, entrepreneurial comme démarche, mais ça ne m'a pas surprise. Mais du coup, c'est aussi rude, quoi. C'est
Qu'est-ce
rude.
que tu veux dire par en face
Bah,
des
tu vas
efforts?
voir. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Une SAP, est-ce que tu peux développer le truc de, voilà, tu dois mettre en face les efforts pour aller là où tu veux, quoi.
En
Un peu
fait, moi,
comme ça, c'est
toute ma
naze.
démarche, elle est de responsabiliser les personnes. En fait, moi-même, je n'ai pas une démarche de victime, ni de. J'ai un peu du mal avec les gens qui se victimisent. Et en fait, moi, j'ai toujours cette démarche-là de leur dire, on peut être face à des situations qui sont injustes. Les inégalités salariales, c'est injuste. Les sollicitations de demande, les sollicitations de travail gratuit qui sont spécialisément focus, spécialisées. Je vais y arriver. Les sollicitations de travail gratuit qui sont particulièrement focalisées sur les femmes, c'est injuste. Mais toi aussi, tu as une responsabilité, pas là-dedans, mais tu as une responsabilité pour mettre un terme à tout ça, d'un point de vue personnel. Et donc, l'idée aussi, c'est de remettre un peu les choses dans leur contexte. Quand tu travailles dans un cabinet d'avocat, d'accord? Même si tu es indépendant et à ton compte et que on n'est pas du tout dans le rapport hiérarchique d'employé-employeur, la réalité fait que le cabinet d'avocat a investi en toi pour que tu génères de la richesse économique. C'est un investissement que le cabinet d'avocat fait quand il recrute un collaborateur ou une collaboratrice. Et donc l'idée, une fois que tu... L'idée, quand tu souhaites augmenter ta rétrocession, c'est de prouver à ce cabinet d'avocats-là que tu as rempli le deal de départ et que tu l'as même surpassé. Et donc, que ta contribution générale à ce cabinet-là est supérieure à ta rétrocession. Parce qu'en fait, si ta contribution générale n'a pas évolué et que tu n'as pas ramené plus d'argent au cabinet, plus de clients, plus de valeurs humaines, plus de richesses économiques, etc., ben en fait, je ne vois pas pourquoi. Et la réalité des choses de manière très pragmatique, pourquoi est-ce que tu voudrais que quelqu'un te rémunère plus alors que le deal que vous avez conclu il y a quelques années ou il y a quelques mois est toujours le même et que tu ne l'as pas surpassé? On ne revient
Et
pas
si
sur
le
un
deal était mauvais à la base?
deal. Ça, c'est un autre sujet. Si le deal était mauvais, effectivement, tu peux revenir dessus. Mais tu reviens dessus parce que le deal était mauvais.
Pas parce que tu as apporté.
D'où toute l'importance. Tu vois, c'est comme un contrat que tu conclus. Quand tu reviens sur un contrat, quand tu demandes de renégocier un contrat, c'est parce que le deal de départ n'était pas équilibré. Et là, si tu reviens sur le deal de départ, c'est qu'il n'était pas équilibré, d'où l'importance de savoir comment négocier une rétrocession à sa juste valeur dès le départ.
Et alors donc, pour des avocats, tu as une méthode de calcul pour savoir si tu as surpassé le deal de départ, la contribution.
Absolument. Et en fait, c'est la méthode, tu vois, on a toujours le sentiment que quand on parle d'argent, quand on parle de négociation, c'est une science de sorcier. Ça l'est pas du tout. C'est du bon sens. Tu vois, dans l'exemple que je t'ai donné, moi, j'ai développé un outil qui s'appelle le ratio contribution-rétribution. Le deal de départ, c'est quoi? C'est le périmètre sur lequel tu as été embauché. Tu as été embauché en tant qu'avocat en propriété intellectuelle avec un portefeuille de, on va dire, 10 dossiers. J'imagine, hein. Si toi, ça c'est le deal de départ, et sur ce deal de départ, ça c'est ta contribution. C'est ce qu'on attend de toi pour la rétrocession en face qui est, imaginons, de 10. Toi, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que bah, tu as gagné en compétences, tu as gagné en expertise, tu as gagné en expérience. Les clients sont très contents de ton travail, ils te sollicitent, spécifiquement d'ailleurs. Et donc, non seulement les clients reviennent, ils reviennent pour toi, tu ramènes plus d'argent à l'entreprise, tu as gagné en expérience et en compétences. Donc, sur un portefeuille de 10, aujourd'hui, tu es capable d'avoir un portefeuille de 15, de 20, de 49. Qu'en plus de tout ça, tu es vraiment engagé dans le cabinet. Donc, à chaque fois qu'il y a un jeune avocat ou une jeune avocate qui arrive, tu la formes un peu sur les dossiers, tu partages un peu ton expérience. Voilà, tu es vraiment dans le partage, toujours dans l'intérêt général du cabinet. Concrètement, ta contribution générale au cabinet n'est plus du tout alignée avec le périmètre de départ sur lequel le deal a été conclu. Donc, tu es légitime et crédible aussi à solliciter un rééquilibrage de rétrocession. Et
C'est
d'ailleurs,
hyper intéressant. Donc, ça veut dire que, en fait, tu objectivises, parce que c'est ça le problème qu'on fait pas, le travail qu'on fait pas, c'est d'objectiviser ses compétences. C'est-à-dire, alors, je sais pas si les portefeuilles de clients chez nous, peut-être, oui, tu as un nombre de dossiers que tu traites, mais globalement, peut-être, c'est un chiffre d'affaires que tu factures. Donc, le chiffre d'affaires que tu facturais en année N plus 1, il a augmenté. Et après, je trouvais ça très intéressant de dire, les clients me sollicitent directement parce qu'en fait, donc concrètement, tous les collabs peuvent dire, bah voilà, t'as monsieur machin, madame truc, peu importe, viennent me voir directement. Donc, c'est-à-dire, j'ai créé une relation de nature à favoriser la confiance du client qui est par ailleurs content de mon travail. Et de ne pas oublier ce que tu apportes au cabinet, donc potentiellement, je sais pas, la contribution à la newsletter. J'ai rédigé tant d'articles cette année. J'ai été à tant de colloques. Enfin, j'en sais rien, mais effectivement, d'objectiviser ses compétences, je trouve que c'est hyper intéressant.
Ben en fait, c'est le travail qu'on ne nous apprend pas à faire à l'école. En fait, la difficulté, c'est quand le rapport à la valeur de ton travail est très émotionnalisé. Et donc, en fait, à aucun moment, tu factualises et tu rationalises les choses. Et en fait, le fait de factualiser, de rationaliser, d'objectiviser, comme tu dis, ça te permet d'avoir une vision très responsable parce qu'elle est plutôt très claire et très objective sur la... Sur pas la qualité de ton travail, mais le niveau de valeur que tu apportes en tant qu'avocat collaborateur ou avocate collaboratrice au cabinet. Et concrètement, si tu vas voir ton boss et tu lui dis, le partenaire, l'associé avec lequel tu bosses, et tu lui dis, écoute, Eric, tu comprends, j'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai pas compté mes heures, donc je veux une augmentation de 20%. La réponse qu'il risque de te donner, c'est, mais attends, INSAF, on a tous beaucoup travaillé, tu veux que je te fasse le décompte de mes heures? Pourquoi est-ce que je devrais te privilégier toi plutôt que Audrey ou Charlotte? Alors que si tu vas le voir et tu lui dis, écoute Eric, tu vois, cette année, j'ai fait tant de chiffre d'affaires supplémentaires, j'ai fait 20% de chiffre d'affaires en plus. J'ai créé une relation client qui est pérenne et qui s'installe vraiment dans le temps, puisqu'aujourd'hui, je suis sollicitée sur tant de dossiers directement par la clientèle. Et donc, ça permet de générer du chiffre d'affaires en plus parce que c'est des clients qu'on a fidélisés. En plus, j'ai formé Marielle, Tony et Virginie, qui sont les nouveaux collaborateurs. Et donc aujourd'hui, on est sûr que voilà, on n'a pas perdu ni de temps, ni d'énergie, ni d'argent en ayant une formation qui se traînait sur la longueur. Ils sont opérationnels assez rapidement. En plus, j'ai assisté à un, deux, trois, quatre colloques et j'ai fait tel truc, tel truc, tel truc qui ont permis de faire rayonner le cabinet. J'estime que ma contribution générale n'est pas alignée avec le deal de départ. En tout cas, elle n'est plus du tout alignée avec ma rétrocession. Et je pense qu'un rééquilibrage de 20% serait complètement, voilà, serait complètement légitime. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux qu'Éric te réponde à part « Oui, tu as raison ».
Et comment tu choisis l'augmentation que tu désires?
Bah,
Tu as une méthode, hein, par rapport au chiffre d'affaires que tu génères ou...
oui. C'est toujours la même chose que la méthode du faisceau d'indices. L'idée, c'est toujours d'aller déterminer ta juste valeur, la juste valeur de ton travail, la juste valeur de ton profil. Et donc l'idée, si tu es rentré dans ce cabinet-là en tant que collaborateur ou collaboratrice avec, disons, 2 ans d'expérience, et que tu as cette discussion-là avec Eric, ou tu t'ambitionnes d'avoir cette discussion-là avec l'avocat associé, ton boss. 3 ans après ton entrée dans l'entreprise, dans le cabinet d'avocat, l'idée, c'est d'aller découvrir la juste valeur de ton profil à date. Quelle est la rétrocession d'un avocat ou d'une avocate qui a 5 ans plus d'expérience? Déjà, un, ça, c'est la première étape de la méthode du faisceau d'indices. Quelle est? Tu demandes du coup aux gens de ton réseau, t'affines du coup cette première fourchette en demandant aux gens de ton réseau. Et trois, tu vas passer des entretiens sur lesquels il y a zéro enjeu. Tu vas tester quelle est ta valeur, à quel point tu es sexy sur le marché du travail. Aujourd'hui, tu es dans ce cabinet d'avocat. Si tu irais dans un autre cabinet d'avocat, combien ils seraient prêts à te payer? Et à partir de ce moment-là, tu es capable, et après avoir fait toute cette méthode-là, tu as une visibilité plutôt claire sur la valeur que le marché de l'avocature donne à ton profil, à toi. Et en fonction de ça, tu détermines le pourcentage d'augmentation et tu le demandes à ton boss.
Et est-ce que tu crois que cette marge de manœuvre, tu l'as dans tous les types de cabinets ou dans les cabinets américains, anglo-saxons, il y a des marges, enfin, il y a des grilles tellement établies que tu n'as aucune marge de manœuvre?
Alors, très intéressant comme question. En fait, les grilles qui sont établies, les grilles de rétrocession, notamment dans les cabinets d'avocats anglo-saxons, ce n'est pas le reflet des prix du marché, c'est le reflet de leur politique salariale. Déjà, c'est deux choses différentes. À partir du moment où tu as cette information en tête, La grille du cabinet, c'est la grille qui reflète la politique salariale du cabinet. Ça ne veut pas dire que c'est le reflet de ta juste valeur sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, sur le marché de l'avocature. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça qu'en général, on s'appuie sur ces grilles-là parce que c'est plus facile et aussi ça te permet toi de te déresponsabiliser, d'accord ? Mais l'idée, c'est qu'une fois que ces grilles sont là, si toi, tu as les éléments factuels pour pouvoir prouver que tu n'es pas dans cette grille-là, que tu es au-dessus de cette grille-là, je n'ai jamais rencontré un cabinet d'avocats ou en tout cas un service RH d'un cabinet d'avocats qui refuserait de recruter un avocat ou une avocate brillante parce qu'il demande un peu plus que les grilles. Tu sais, les grilles, c'est toujours la même chose. C'est la règle, parce qu'il faut des règles, surtout dans les grands cabinets d'avocats qui sont des énormes machines. Mais aux règles, il y a toujours des exceptions. Et c'est là où c'est très important aux avocates qui vont nous écouter de leur dire, mesdames,
oui, s'il messieurs vous plaît, d'ailleurs,
messieurs, mesdames, messieurs, mais surtout les filles, parce qu'elles ont tendance à s'enfermer dans le syndrome de l'imbon élève. Les hommes vont plus avoir tendance à challenger quand ils se rendent compte que la grille n'est pas du tout alignée avec la valeur de leur profil sur le marché. Alors qu'une femme, une avocate aura plutôt tendance à être dans cette posture de bon élève et de se dire, bon, bah, c'est la règle, je suis la règle. Si c'est comme ça, c'est que c'est pas, ça ne sera pas autrement.
Bon, ça. Mais du coup, ce qui était... c'est-à-dire, il y a quand même une dimension peut-être qu'il faut rajouter. C'est que dans certains cabinets, on n'est pas prêt à te payer plus. Mais pas parce que ta valeur... Parce que, alors je mets de côté le ou la boss toxique, je mets de côté celui qui a envie de gratter sur ton dos, je mets de côté ces profils dont on veut, que l'on ne veut pas. Si on est... on pourra évidemment y revenir si tu le souhaites, mais si je mets de côté ces gens qui te veulent du mal ou qui concrètement ne sont pas là pour ton développement et pour le développement de leur entreprise, ou en tous les cas, pas de façon saine, et ce n'est pas ça qui les intéresse, il y a clairement des cabinets qui peuvent reconnaître le travail que tu génères, mais qui ne peuvent pas te payer à la hauteur de ta juste valeur parce que juste, en fait, le cabinet ne peut pas, quoi.
Oui, mais la juste valeur, elle se calcule par rapport au cabinet, je suppose. Elle ne va pas se calculer par rapport à soi ou
bah non, pas nécessaire. J'en sais rien. Bah, du coup, c'est une bonne question.
La juste valeur de ton travail et de ton profil est calculée par rapport à des éléments qui sont factuels, qui sont des éléments de marché.
Voilà, donc ça peut être différent.
Voilà.
C'est ça. Et donc, ça peut être différent de ce que le cabinet peut te payer.
Si tu es dans un cabinet qui ne marche pas bien, tu vas ailleurs dans ces cas-là. Enfin, qui n'a pas les moyens de ta valeur.
Oui, mais tu peux... Ouais.
Alors, il y a deux choses.
Alors, tu apportes de la valeur en plus au cabinet et c'est à ce moment-là que tu...
Il y a deux choses. En fait, quand tu es dans un cabinet ou que tu as rejoint un cabinet ou que tu veux rejoindre absolument un cabinet qui affiche dès le départ le fait qu'il ne te rémunérera pas à ta juste valeur parce qu'il n'a pas les moyens, la première question à te poser, et ça fait aussi partie de la méthode du coup ma juste valeur, c'est qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ce job dans ce cabinet d'avocat-là parce que tu sais que même si la rétrocession n'est pas à la hauteur de ce que tu désires aujourd'hui, il y a une contrepartie qui est la visibilité, l'apprentissage, le rayonnement que ça va offrir, le boost que ça va offrir à ta carrière, l'exposition que tu peux en retirer qui est intéressante.
Et ou donc, juste, excuse-moi, voilà. Je te coupe, ou juste tu es bien. En fait, ça peut être un cabinet dans lequel tu es déjà et en fait, tu es bien. Tu n'as pas envie nécessaire. Enfin, tu vois, juste, tu sais que tu es bien là-bas, l'environnement de travail est bien, mais on ne te rémunère pas assez. Comment on fait ?
Où tu es bien, et du coup, tu décides de faire un investissement sur toi-même. Et là, tu es clair dans ta tête. Tu n'es pas dans cet entre-deux où tu as accepté, mais en même temps, tu te plains, où tous les quatre matins, tu te lèves et tu dis « Ah, mais je ne suis pas suffisamment rémunérée. Ah, mais j'aimerais bien déménager, mais je peux pas, j'ai pas suffisamment de thunes, mais pour ça, il faudrait que je pars. » Tu n'es pas dans cette espèce, d'entre-deux... qui est pas sain ni pour toi ni pour personne en fait, où t'es jamais dedans mais t'es jamais à l'extérieur non plus, t'as un pied dedans et un pied dehors. Clairement, tu t'es fixé en te disant je sais mais je fais un investissement sur moi-même. Soit tu ne veux pas faire cet investissement sur toi-même et dans ce cas-là c'est très simple, tu n'acceptes pas le job. Maintenant, pour éviter les choix cornéliens, par exemple t'es dans un cabinet, ça se passe très bien. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens, etc. Toi, tu sais ce que tu veux. Aujourd'hui, tu es dans une tranche de vie où tu valorises énormément voilà, le bien-être au travail, tu valorises énormément le fait d'avoir du temps, etc., etc., etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est dès le départ, te mettre d'accord avec le cabinet d'avocats et dire, bon, bah, OK, tu n'es pas capable de me payer à la juste valeur de mon profil sur le marché. Donc, comme on est dans ce rapport qui est très particulier, où tu travailles pour un cabinet, mais en même temps, tu es une profession libérale, tu es à ton compte, j'exige, je demande, je veux avoir suffisamment de temps pour développer une clientèle. Et là, en fait, encore une fois, tu n'es pas dans un choix cornélien, tu es dans ce cabinet d'avocat parce que tu as décidé, tu voulais, qu'est-ce que je veux rester dans ce cabinet pour plusieurs raisons. Soit l'investissement en moi, soit l'aspect un peu équilibre de vie. Mais en même temps, je veux plus d'argent. Donc, je vais dédier plus de temps. Je vais leur signifier que je vais avoir besoin de plus de temps pour développer ma clientèle propre. Et là, en fait, tu retombes sur tes pattes.
Donc ça reviendrait à dire, je suis dans un cabinet depuis 5 ans, parce que c'est un truc qui est hyper fréquent. Je suis dans un cabinet depuis 5 ans, j'ai démarré là-bas, j'ai un attachement hyper fort avec ce cabinet, les gens qui m'ont formé, etc. Mais bon, ce n'est pas un cabinet qui crève le plafond, c'est un cabinet qui fait tourner bien ses associés, mais bon, ce n'est pas un cabinet qui crève le plafond. Et du coup, je me dis quoi? Je me dis, je vais voir mon boss et je lui dis, voilà, aujourd'hui, tu sais que je ne suis pas pour. Alors, du coup, ta méthode, ça viendrait à dire, j'ai regardé sur Internet combien je valais, j'ai demandé à mes potes combien ils gagnaient, j'ai été passer des entretiens et en gros, je pourrais avoir une augmentation de plus de 20%. Donc, je vais voir Annick et je lui dis. Annick, écoute, tu m'as embauché pour ça. J'ai la rétro d'un collab, j'ai la rétro UJA d'un collab quatrième année, mais en fait, c'est bien le tarif UJA, mais bah, en fait, ça me va pas, ça me va plus parce que ça correspond plus au travail que je fais, parce que je génère tant de chiffre d'affaires, j'ai tant de clients qui viennent me voir, j'écris des articles. Maintenant j'ai des plaidoiries que je peux faire toute seule. Voilà. Donc, il n'y a plus d'alignement entre le tarif que tu me payes et le truc. Et le tarif que tu me payes et le travail que je fournis. Du coup, normalement, si sur le marché du travail, c'est 20% en plus. Ces 20%, tu ne les as pas. En revanche, ce que je te demande, c'est de ne pas travailler le mardi après, le mardi dans la journée.
Exactement. En
OK.
fait, le truc, c'est pour ça que moi, dans ma méthode, il y a le qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux et comment je demande pour l'obtenir. Le qu'est-ce que je veux, il est hyper important. Parce qu'on n'est pas tous et toutes dans les mêmes tranches de vie. Il y
Ouais,
en
c'est
a
ça.
qui veulent aujourd'hui, voisin, et voilà, ils ont la niaque, ils ont faim, ils ont envie de tout péter, ils veulent l'argent, l'exposition, ils veulent tout. Et ils ont raison. Et il y en a, ce n'est pas leur envie, en fait. Et il faut respecter toutes les envies. Donc, quand tu te poses la question en te disant qu'est-ce que moi je veux, dans quelle tranche de vie je me situe, qu'est-ce qui est le plus important, quelles sont mes priorités de vie, quels sont mes objectifs de développement personnel, de carrière, et bien, à partir du moment où ça c'est au clair, tu peux très bien te dire, écoute, je suis pas dans un cabinet qui crève le plafond, mais en fait, j'en ai jamais voulu. J'ai jamais voulu ça. Moi, ce que je valorise, c'est être dans un cabinet familial. Où on travaille mais pas beaucoup, où je peux partir à 19h ou 18h30, où je peux prendre mon mardi après-midi ou mon mercredi, etc. Et donc l'idée là, c'est de négocier du temps versus de l'argent. Et donc tu peux très bien négocier en disant, bah, comme tu ne peux pas m'augmenter de 20%, bah, en fait, moi, je vais ramasser mon temps de travail sur 4 jours. Ça ne te coûte pas plus d'argent à toi, moi, ça me permet d'avoir un peu plus de temps. Et c'est 1 $ financièrement pour toi. Et pour la personne qui le demande, pour l'avocate ou l'avocat qui le demande, bah, ça lui permet d'avoir 20% d'augmentation qui ne sont pas imposées en plus sur lesquelles il ne
Oui,
sera pas imposé fiscalement, tu vois.
ouais, c'est
Donc,
clair.
ça permet de trouver voilà, un accord sur les avantages en nature qui sont possibles. Et là, clairement, c'est du temps. Si tu viens de débuter et que tu as envie de péter le plafond, mais concrètement, tu n'as pas encore les moyens d'entrer dans un cabinet qui pète le plafond, ou si tu viens de débuter ou que voilà, tu as vraiment cet esprit entrepreneurial et que tu as vraiment envie à terme de monter ton cabinet, bah, tu vas quand même demander ce 4/5e avec une rétrocession au taux plein. Et cette journée de travail, tu vas l'utiliser pour développer ton side business.
Oui, bien sûr.
Et
Et tu
pour
pourrais aussi
développer.
le demander pour des formations, en fait. Tu pourrais aussi demander une...
Tu peux également, mais en fait, il y a tout un panel, vraiment tout un éventail d'avantages en nature que tu peux pas, que tu peux demander. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que la rétrocession, ce n'est pas que de l'argent. Ça peut être aussi des avantages en nature qui vous permettent de, un, respecter vos priorités de vie et deux, faire avancer votre carrière ou votre business dans le bon sens. Et ça peut être des formations, ça peut être participer à des colloques où voilà, c'est eux qui c'est tout le cabinet qui prend en charge plutôt que un petit peu toi, un petit peu eux. Ça peut être du temps. Voilà, il y a. On peut être. En fait, ce qui est bien quand tu travailles dans un cabinet d'avocat, c'est que tu n'as pas le cadre du salariat. Si tu étais une salariée, l'entreprise te dirait, bah, écoute, nous, on a mis ça et ça en place, c'est un cadre, on ne peut pas en dévier. Quand tu es dans un cabinet d'avocat, finalement, il y a un cadre, mais le cadre est extensible. Donc, tu peux très bien négocier avec ton boss ce que tu veux. Et la réalité, c'est que ton boss, il veut te garder, il fera cet effort-là.
Ouais.
Et ça, c'est la méthode que tu dis. Donc, c'est quoi la première question?
Qu'est-ce que je
Attends.
veux?
Qu'est-ce que je vaux?
Deux, qu'est-ce que je veux?
C'est ça.
Et trois, comment je le demande pour l'obtenir?
Quelles sont les actions que je mets en place pour l'obtenir? C'est ça, en fait,
Qu'est-ce que je
que
dis?
tu veux.
Quels sont les éléments de langage que j'emploie pour obtenir ce que je veux?
Ouais, mais j'avais compris aussi que. C'est-à-dire, tu avais donné un exemple qui m'avait frappé dans une autre interview que tu as faite. Où tu disais un truc que moi j'entends fréquemment, qui est deux trucs. En fait, je voulais te revenir avec toi sur deux trucs. Le premier truc, c'est les choses que je fais qui ne sont pas valorisées, mais qu'on ne m'a pas demandé. Et l'autre truc sur lequel je voulais que tu reviennes, c'est les changements de ma vie. J'ai des enfants, je veux déménager, nanana, et qu'est-ce que ça génère pour moi comme envie d'augmentation? Donc peut-être dans l'ordre, les trucs que je fais et j'ai l'impression que c'est pas valorisé.
En fait, encore une fois, l'idée, c'est de se responsabiliser. Il y a beaucoup de personnes, qui font beaucoup de bruit, mais voilà, qui agitent beaucoup les bras, mais derrière, il n'y a pas beaucoup de valeur. Et en fait, l'idée aussi, c'est
Mais ils
de.
font des trucs, ces gens-là, ils font vraiment des trucs. C'est juste que ça apporte. C'est juste qu'on ne leur demande pas. C'est ça le truc, non?
Ouais, il y a des gens qui font des trucs, mais en fait, il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui font des trucs qu'on ne leur a pas demandé. En fait, l'idée, encore une fois, c'est de se dire quel est l'équilibre de ma relation de travail avec mon boss, avec mon cabinet. Et en fait, c'est très important parce que des fois, tu vas être proactive à faire des trucs qu'on ne t'a pas demandé de faire. Et une fois que tu les as faits, tu vas demander d'être rémunéré pour. Je te donne un exemple tout bête pour imaginer mon propos et vraiment pour que tout le monde ait une, voilà, ait de la visibilité sur ce que j'ai envie de dire et le message que j'ai envie de faire passer. Si tu vas chez le boulanger et que tu lui demandes une tradition et que lui te dit, OK, madame, ça fera 28,80 €. Et tu lui dis, attendez, monsieur, je vous ai juste demandé une tradition. Ouais, mais je me suis dit que ça vous ferait du bien d'avoir une tarte au citron, un pain spécial et puis un gâteau d'anniversaire parce qu'il me semble que c'est
C'est
bientôt
dans
votre
pas longtemps votre
anniversaire.
anniversaire, madame.
Là, vous allez lui dire, bah, écoutez, enfin, vous êtes bien gentil, moi je vous ai demandé une tradition en fait. Donc,
Ouais.
j'en veux pas de tout ça, vous me donnez une tradition. Ouais, mais attendez, madame, faites un effort, moi, regardez tout le travail que j'ai fourni. C'est pas juste. Transposition. Si tu es en cabinet d'avocat et que tu fais du travail qu'on t'a pas demandé de faire, attention, quand je te dis c'est un travail qu'on t'a pas demandé de faire, c'est qu'en fait, je me suis aperçue depuis 10 ans que je coache les gens à négocier leur REM, qu'il y a plein de gens en fait qui n'ont pas, enfin voilà, qui sont, ils ont la peur d'aller faire face et de demander ouvertement à leur boss et de parler d'argent. Et donc comme ils ont peur, ils se disent plus je vais faire des trucs et plus lui ou elle, il va recevoir ce message subliminal que je fais plein de trucs et du coup, spontanément, il ou elle va m'augmenter, j'aurai pas besoin d'en parler. En fait, non, ça se passe pas comme ça. La règle, c'est si tu fais des trucs en plus de ton propre chef qui n'ont pas été commandés de la même manière que tu commandes quelque
Elle a
chose.
mis commandé avec ses doigts en guillemets, je vous préviens.
qui n'ont pas été demandées, commandées, entre guillemets, par ton cabinet, par ton boss, en fait, tu t'exposes au fait que ces choses-là que tu as rajoutées potentiellement seront gratuites. De la même manière que tu t'exposes quand tu es un boulanger et que tu mets dans le sac la tarte au citron, le gâteau d'anniversaire, etc., à potentiellement les offrir si Audrey en face ne veut pas les acheter. Et ça, en fait, c'est une très mauvaise technique parce que c'est un peu la technique de tu mets le pied dans la porte. C'est-à-dire que tu forces un petit peu la personne quelque part à être au pied du mur et pas et t'augmenter qu'elle le veuille ou pas. Et en fait, moi, c'est concrètement tout ce que je honnie et tout ce que tout ce que je n'enseigne pas. En fait, quand tu veux revoir un contrat, un deal qui a été établi, il faut engager une discussion saine et sereine. Il ne faut pas faire des petits coups en mode je rajoute ci, je rajoute ça, et après il ou elle sera obligé de m'augmenter. Parce que ça, en fait, ça n'apporte rien à part un, de la déception,
Ouais.
deux, briser le lien de confiance qu'il y a entre vous et votre boss.
Donc, tu vois, il faut jamais commencer une action sans en parler en amont, quoi. Enfin,
En fait, tu peux commencer une action si tu veux, mais l'idée, c'est on se met au clair dès le départ, on clarifie en fait. On n'a pas peur d'assumer qui on est, on n'a pas peur de clarifier, on n'a pas peur d'aborder ces sujets-là. Et par exemple, si ton boss te dit écoute, moi j'aimerais bien que tu ailles dans ce colloque-là, ok, mais au départ, ce n'était pas prévu que j'aille dans ce colloque-là, et juste pour que tu saches, Audrey, on va dire que tu es ma boss, Audrey, moi, ce temps-là que je vais dédier au colloque et à faire après le feedback et à faire rayonner le cabinet, etc., je ne vais pas le dédier à mes clients perso. Donc moi, je suis ravie de dédier plus de temps pour le cabinet, mais plus de temps pour le cabinet, ça veut dire moins de temps pour développer ma clientèle perso. Est-ce qu'on est d'accord qu'à la fin de l'année, voilà, tout ça sera rééquilibré
Mais développer sa clientèle perso, c'est quand même un gros tabou dans la plupart des cabinets. On ne le dit pas,
Ouais,
on le
c'est
fait
un
en
gros tabou.
cachette. Hein? Non, mais
Ouais,
c'est
c'est un
vrai,
gros
on le fait
tabou.
en
Non,
cachette.
mais ça, c'est pas un truc que nous, on peut régler lors d'un podcast, ça c'est sûr. Ce qui
Ah
est.
si,
Mais c'est.
on peut
Non, non, mais
c'était
ce qui est intéressant, c'est de se. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, non, mais c'était pas pour.
Non, mais ça fait
Je voulais
partie de
pas
la
dire
quête.
qu'on ne pouvait pas le régler avec une table. Ce que je voulais dire, c'est que c'était juste de pointer que quand même, il y avait cette problématique, enfin, ce double statut qui fait la beauté de la collaboration libérale, qui doit être un juste équilibre entre le travail qu'on te fournit, la formation que tu reçois, et le temps qu'on te laisse pour développer tes clients. Mais
Oui, mais
j'ai
moi je trouve
l'impression.
ça super intéressant comme approche de, au lieu de demander une augmentation, de demander du temps.
Ouais,
Enfin,
je suis
dans
d'accord.
certains types, mais c'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais enfin, c'est quelque chose qui peut être demandé beaucoup plus facilement si on est dans un cabinet où on sent que la rétrocession est bloquée pour des raisons
Financière.
financières,
Ouais.
d'aller demander une journée, c'est
Ah, je
pas.
pense que c'est pas du tout pareil. Je suis tout à fait d'accord avec
Ouais.
toi. Et même une formation, tu vois.
Ben, en fait, tu vois, c'est assez intéressant parce que, en fonction des cabinets, c'est vrai que le fait de développer sa clientèle perso, c'est extrêmement tabou. Mais c'est là où tu te rends compte qu'on marche un petit peu sur la tête quand même.
Bon, bah, c'est
Parce
sûr.
que, tu vois, quand tu es à l'école des avocats, on n'arrête pas de te dire, écoute, il n'y a pas de relation hiérarchique entre toi et et le
Ouais, bien
cabinet.
sûr.
Pour autant, tu as quand même une autorité naturelle qui fait que, ben oui, même si tu es en profession libérale, la réalité, c'est que le cabinet d'avocat, c'est ton client premier, d'accord? Et en même temps, comment expliquer à ton premier client, qui est celui qui est ta première source de revenus, que tu as besoin de plus de temps pour avoir d'autres sources de revenus? Moi, ma parade, elle est simple. Si les mots sont compliqués à poser, parce qu'il y a des mots qui sont forts de sens, qui sont lourds et qu'on ne peut pas utiliser sans se brûler, ben dans ce cas-là, on adapte les éléments de langage. Et donc, tu peux lui dire, dans le cas qu'Audrey a cité, bah écoute, moi, le temps que j'ai utilisé pour faire rayonner le cabinet, c'est un temps que je voulais dédier à faire autre chose. Du coup, je ne pourrais pas faire autre chose. Est-ce qu'on est d'accord que moi, si je ne peux pas faire ces choses-là, qui vont me nourrir moi, est-ce qu'à la fin, on fera les comptes et on fera les plus et les moins et on rééquilibrera tout ça? Moi, je suis convaincue, en fait, si tu veux, qu'à moins d'être dans un cabinet toxique avec le boss toxique ou la boss toxique, la réalité, c'est que les gens sont toujours enclins au compromis. En général, tu as plus peur du résultat. Enfin voilà, tu as plus peur que mal, en fait, tu vois. Tu as plus peur d'engager ce type de discussion, oui, parce que finalement, elles sont inconfortables, que tu sais pas avec quel mot les utiliser, etc. Mais la réalité, c'est si tu connais ta valeur, tu sais ce que tu apportes au cabinet, que tu l'assumes et que tu la vocalises de manière très factuelle, enfin, à moins d'être dans un cabinet, encore une fois, toxique ou avoir un boss toxique, quel être humain en face qui a été à ta place il y a quelques années ne pourrait pas te comprendre.
Oui, non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, en fait...
C'est d'être sûr de soi et de ne pas y aller un peu au... Enfin, avoir bien, bien tout prévu, bien tout calibré.
C'est ça, il faut réfléchir à son truc.
C'est pour ça qu'il faut absolument se former, tu vois. C'est pour ça qu'il faut en discuter et c'est pour ça que je fais le travail que je fais, finalement. Parce que tout ça, si tu n'es pas préparé à le faire, si tu t'es pas préparé, si tu n'as pas mis une stratégie en place, si tu t'es pas fait un plan A, un plan B, un plan de secours, bah, la réalité, c'est que bah, soit tu te noies dans ton tsunami émotionnel et ta confusion mentale, soit finalement, tu le fais jamais.
Et puis, j'imagine que ça te permet aussi de toi d'avancer, de travailler mieux, plus efficacement, parce que j'ai la sensation quand même que quand on est bloqué à une rétrocession, on a tendance à dire... Bah, à en faire moins, à se dire de toutes les façons, si je me donne corps et âme, ça ne changera rien. Donc, tiens, je vais faire mes conclusions et puis je m'arrête là, je ne vais pas en donner plus. Mais si tu sais que si tu mets ça en place, que tu as généré tant de pourcentage de chiffre d'affaires en plus et que derrière, tu peux aller demander ça, je pense que c'est une espèce de spirale positive plutôt que de lâcher la rampe, quoi.
Et puis même, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est hyper important de nourrir l'estime de soi, son estime de soi.
Ouais.
On a tendance à faire 3 milliards de trucs et en plus, à les, pas à les dénigrer, mais on n'a pas de véritable visibilité sur l'impact des choses qu'on fait. Les mettre sur papier et réaliser tout ce que tu fais, ça te permet aussi de gagner en puissance et de te dire au final, ben, entre ce que je vaux, ce que je veux, si à un moment donné, je n'obtiens pas ce que je veux, bah, c'est que je suis peut-être plus à ma place ici et forte de tout ce que je vois sur papier, de ce que je suis capable de réaliser, bah, en fait, ça m'empouvoir pour aller chercher aussi autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'avocats et d'avocates qui sont coincés dans leur cabinet parce qu'ils sont convaincus que s'ils vont voir ailleurs, voilà, ça sera déjà, un, ils ne seront jamais recrutés et deux, ça sera pire que ce qu'ils vivent déjà. Donc voilà, ça permet aussi, c'est vraiment un exercice qui permet de regagner, de reprendre confiance en soi, de regagner l'estime de soi et de regagner son pouvoir de manière générale.
Donc, peut-être qu'on passe au rapport entre...
Ouais, attends, ouais, exactement.
Là, on a déjà une heure.
Non, pas encore une heure, mais en fait, c'est un peu le... Donc, si je résume, que je sois collab, jeune collab et que ce soit ma première collaboration, ou en fait, non, je vais dire les choses différentes. Que je rentre en relation pour signer un contrat de collab ou que je sois dans l'exercice de mon contrat de collab, je ne sais pas si ça se dit, les trois questions à me poser, c'est ce que je veux, ce que je vaux, ce que je veux et les éléments de langage pour l'obtenir avec les efforts que je mets en place pour l'obtenir. En d'autres termes, je dois vérifier ce que je vaux avec la méthode du faisceau d'indices dont on en a parlé. Ce que je veux, il faut bien que je me regarde dans le miroir pour me dire, est-ce que je vais devenir, moi, Audrey, l'avocate des entreprises du CAC 40, ou est-ce que, globalement, bah, je n'ai pas envie de ça, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de terminer à 23h tous les soirs, j'ai envie de rentrer pour voir ma famille, etc. Donc ça, c'est de se mettre au clair avec ce que je suis, quoi, et ce que je veux, et peut-être la tranche de vie avec laquelle je suis. Et du coup, ce que je comprends en creux, c'est quand même te mettre en accord avec tes propres contradictions, d'une certaine façon. Tu vois, parce qu'on a tous envie de se dire qu'on est des Elon Musk en puissance, mais en fait, potentiellement pas.
En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voudrais juste rebondir sur un truc. Tu peux être à Audrey, chez Mouly, la grande avocate du CAC 40, des entreprises du CAC 40, sans terminer à 23h tous les soirs. Ça, tu peux. Il suffit juste de mettre en place les bonnes, les bons éléments. Mais on pourra faire un autre podcast si tu veux là-dessus. Mais ça, je tiens quand même à le dire parce qu'on a toujours tendance à demander aux avocats et aux avocates de choisir entre leur carrière et leur vie privée. C'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de choisir. C'est
ouais, sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je me bats un peu. Je suis d'accord. Voilà. Mais bon, intéressant, mais pas le sujet.
Voilà.
Intéressant, mais pas le sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire.
Ensuite, ta deuxième question, c'était, excuse-moi.
Non, non. Ce que je disais en rappelant, je disais, donc ce que je suis, voilà, donc soit entreprise du 440, soit avocate, mais en fait, je n'ai pas envie de sacrifier un certain nombre de choses. Et donc, l'idée, c'est de se mettre en accord avec ses propres contradictions, je pense, dans le ce que je veux. Et le truc qui était intéressant, c'est la façon dont tu disais d'objectiviser les choses. Donc, le troisième point, c'est la façon dont tu le dis. Et aussi, quand même, de se dire que si je me suis regardée en face et que je veux être Audrey, avocate des entreprises du 440, bah dans les moyens de mettre en place, il y a quand même une formation probablement et le temps que je suis capable d'y accorder et l'argent potentiellement que je suis capable d'y dédier à mettre en place. Donc ça aussi, c'est une façon de se regarder en face en disant aujourd'hui, je ne suis pas capable parce que notamment, j'ai des formations qui me manquent. Si j'ai des formations qui manquent, il faut que j'y dédie du temps et de l'argent. Est-ce que je suis prête à faire ces sacrifices-là? C'est ça le travail qu'il faut faire.
Et même plus que, moi, je dirais, j'emploierais pas le mot sacrifice, c'est vraiment
investissement. Des efforts, investissement. Voilà. Excuse-moi, tu as raison, tu as raison.
Et la réalité, c'est que, en fait, la difficulté avec les personnes, et on le voit aussi, là, on a beaucoup parlé des avocats et des avocates collaborateurs et collaboratrices, il y en a qui sont à leur compte. Il y en a clairement, je suis désolée, tu ne peux pas facturer ton heure, tu ne peux pas demander 280 euros hors taxe de l'heure. Tu es mauvais ou tu es mauvaise, en fait. Regarde-toi dans le miroir. Tu n'es pas bon ou tu n'es pas bonne. Ou tu n'es pas aussi bonne ou aussi bon que ce que tu ne crois. Donc oui, si tu fais à 280 euros hors taxe de l'heure, bah, tu ne vas pas avoir de clients. Parce qu'en fait, les clients qui viennent, ils se sentent floués. Et derrière, tu n'as pas tout cet enclenchement qu'on connaît dans le métier qui fait qu'avec le bouche à oreille, on peut développer un cabinet plus que si on était sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le truc, c'est vraiment se regarder en face et se dire « Ok, soit je ne suis pas qui la personne que je pense être, soit je suis plus que ce que je pense être. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? » Sachant que ce qui est important pour toi aujourd'hui, ce n'est pas marqué dans le marbre. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui tu prends cette décision-là, que tu ne pourras jamais changer d'avis. Et si tu n'es pas bon ou si tu as des lacunes ou s'il te manque des choses, va apprendre. Va apprendre à négocier ta rétrocession, va te former pour décrocher cette spécialité-là qui est un peu un Graal où tu pourras mettre que tu es spécialisé en propriété intellectuelle, va faire des collaborations avec d'autres personnes, etc. Va te montrer, apprends, fais des articles, etc. Et là, à un moment donné, tu pourras te dire bah, j'ai la notoriété qui fait que je peux afficher 400 ou 500 euros hors taxe de l'heure, tu vois.
Là, je vois très bien. Ce qui nous fait notre magnifique transition. Bravo!
Comme invité,
bravo! Bravo, bravo! Ce qui nous fait notre magnifique transition via donc les gens qui ont leur cabinet. Qui ont leur cabinet, enfin, d'ailleurs, qui ont leur cabinet ou qui travaillent en indépendant ou même les collabs qui ont envie de développer leur perso. Enfin, en fait, c'est pour tout le monde. Et le travail maintenant, c'est vis-à-vis de ses clients. Donc, vis-à-vis de ses propres clients, comment tu fais? Pour fixer ta valeur, ça marche comment en fait?
Pardon, ça marche comme pour les avocats, ouais. Ça marche comme pour les avocats collaborateurs. C'est le même principe. Déjà, la première chose qu'il faut se dire quand tu fixes ton tarif, ça c'est la première règle, on ne fixe pas son tarif, ses honoraires en fonction de son niveau de confiance en soi, on les fixe, encore une fois, en fonction des éléments factuels de marché. Le boulanger, quand il fixe son tarif pour sa baguette, il ne la fixe pas en se disant « Dis donc Michel, est-ce que tu as confiance en toi aujourd'hui ?» Non. Il prend le prix de la farine, il prend le prix, le coût de l'électricité, il prend dans son tarif le coût de l'allocation de son local commercial, voilà. Le coût de la vendeuse qui va vendre le pain pendant que lui, il est au four, etc., etc., etc. Et bien pour vous, messieurs les avocats et mesdames les avocates, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on fixe son tarif.
C'est hyper, c'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai. Mais tu sais que moi, j'accompagne des cabinets, mais personne ne sait à combien ils sont d'heures. En vrai, je veux dire, Tout le monde dit, tu factures combien de l'heure? 250 euros, 280 euros, 350 euros, 400 euros, j'en sais rien. En fait, les gens fixent et tu leur dis, mais du coup, t'es arrivé comment pour ce 350 ou ce 400 ou ce, je sais pas. Bah, ils te disent, personne ne sait. Personne n'a fait l'exercice de dire, voilà, je facture tant dans l'année, je le facture moins ses charges, divisé par le nombre de jours que j'ai envie de facturer, le nombre d'heures que je sais que je vais facturer sur le nombre de mois que je sais que je facture, ça fait combien? Bon, bah, ça doit faire mathématiquement ton heure. Moi, je sais qu'avec le nombre de vacances que je passe, je devrais facturer 410 euros de l'heure. Bon, bah, je peux pas. Je le fais pas. Mais c'est pas grave. J'ai choisi, moi, donc ça, c'est le ce que tu veux, j'ai choisi, moi, de ne pas facturer même 450 euros. J'ai choisi, moi, de ne pas facturer 450 euros parce qu'en fait, j'ai choisi de prendre des vacances. Et ça, c'est ce que tu dis. Mais si je fixe en fonction de quelque chose qui existe.
En fait, moi, je comprends pas pourquoi tu factures pas 450 euros.
Ouais.
Ah ouais, mais c'est parce que j'ai des... C'est une très bonne question. Bah,
Non,
très
c'est
bien,
un truc
parlons-en. Bah, parce
parce
que
que
j'ai pas
t'oses
des clients
pas.
qui me facturent. J'en sais
Non, c'est parce que t'oses pas, en fait.
Non,
La
mais...
réalité, en vrai, Audrey, c'est juste parce qu'il y a une voix dans ta
Après, si
tête
tu
qui
prends
te dit
6 mois
que
de
tu peux pas
vacances
faire
par
ça.
an, bon.
Bon, je prends pas 6 mois de vacances. Je
Tu
précise aux auditeurs, je prends pas 6 mois de vacances.
veux pas...
Justement, c'est parce que justement, tu prends souvent des vacances que tu dois facturer plus, en fait. Parce que tu passes moins de temps à travailler. Donc, ton heure de temps dans laquelle tu vas travailler, elle est entre guillemets le double ou à multiplier par 1,25 par rapport à l'heure normale de celui ou
J'espère que tes
celle.
clients ne vont pas écouter parce qu'ils vont se dire,
Ouais,
oh,
c'est ça, je vois
c'est
mes clients.
okay.
En réalité, moi, je pense que tu factures pas plus parce que tu penses que tu ne peux pas facturer plus ou que ce ne sera pas accepté par tes clients que
Oui,
tu factures plus.
d'une certaine. Oui,
Et
bien
là,
sûr,
le
c'est
fond du
sûr.
problème, en vrai, hein, alors que je pense que tu peux facturer plus.
Il faut que tu
Ce
regardes.
sera peut-être l'objet d'un autre épisode.
Mais donc, alors, ouais, ça, c'est OK. Les croyances limitantes, je veux bien que ça fasse l'objet d'un autre épisode. Mais là, donc, on était sur le factuel. C'est-à-dire que du coup. Factuellement, tu détermines combien est-ce que tu dois être rémunéré.
Voilà, concrètement, tu prends pour mettre en place ton tarif, tes honoraires. Déjà, à la base, c'est quoi la valeur? C'est quoi la moyenne? Tu t'aperçois que quand tu. On va prendre l'exemple d'un avocat ou d'une avocate généraliste, ça va être plus simple. Tu te rends compte que la moyenne, grosso modo, en Île-de-France, mais un peu partout en France, c'est autour de 150 euros hors taxe de l'heure. D'accord? Ça, c'est une moyenne qui est très basse. On
Oui,
est d'accord?
on est d'accord.
Ensuite. Mais c'est une moyenne, ça reste une moyenne. Donc c'est une moyenne qui est très basse. Sur ces 150 euros, tu te dis, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Ben, j'ai vraiment pour ambition de développer le cabinet. Donc si je veux développer le cabinet, il faut que je recrute un collaborateur ou une collaboratrice. OK, donc il faut que je le paye. OK, donc si je dois le payer, ça veut dire que j'augmente mon tarif de 50 euros. Là, j'imagine, hein, les chiffres sont évidemment pas bons. J'augmente mon tarif de 50 euros. Bon, jusqu'ici, je bossais dans mon salon, mais concrètement, c'est un peu compliqué de bosser dans son salon. Et puis voilà, je ne vais pas prendre des locaux, mais je vais prendre un espace coworking. Ça coûte 400 euros par mois. Encore une fois, j'imagine. Bim, tu répercutes sur ton tarif. En plus de ça, bon, bah, il va falloir que je prenne des vacances parce que j'ai des enfants, je ne les ai pas faits pour ne pas les voir. Donc, je prends une semaine de vacances toutes les 5 semaines. Bim, tu répercutes ce temps-là sur ton tarif. Et en faisant ça, tu arrives à mettre en place une politique tarifaire qui représente la juste valeur de ton profil sur le marché. Quand je dis ton profil, c'est ton expertise, ton expérience, tes compétences, et en plus, la réalité de ton activité. Donc, le qu'est-ce que je veux?
Mais comment est-ce que tu fais pour faire l'étude de marché de combien une. Je sais pas, non, mais... combien vaut un pacte d'associés? Comment est-ce que tu fais cette étude de marché-là? Tu demandes aussi à ton réseau?
Exactement. Alors, combien vaut un pacte d'associés? Quand tu fais cette étude de marché pour savoir combien vaut un pacte d'associés, c'est très simple, Audrey. Tu vas regarder combien facture le pacte d'associés de quelqu'un qui a son compte. Déjà, ce n'est pas que vaut un pacte d'associés. La vraie question, c'est quel est le prix des compétences, de l'expertise et de l'expérience qui te permettent, toi, Audrey, qui a 10 plus d'années, de faire un pacte d'associés qui est béton? Parce que le pacte d'associé d'un avocat ou d'une avocate qui est spécialisée en droit des affaires dans les relations entre associés, ce ne sera pas le même pacte d'associé qu'un pacte d'associés qui sera réalisé par un jeune avocat collaborateur qui est spécialisé en droit de la famille et qui le fait parce que son client lui a demandé. Et c'est le meilleur ami de son père.
Oui,
C'est
ça c'est sûr.
arrive. Et qu'il faut qu'il prenne des clients.
Non, mais des gens qui ont plus ou moins, tu vois, la même expérience que moi, comment on fait cette étude de
La
marché, comment on
réalité,
l'a fait?
c'est que...
Elle est difficile quand même.
En vrai, non, elle n'est pas si difficile que ça. Tu prends les
Faut
personnes.
demander en fait.
Il faut demander. Tu dis, bah voilà. Et la réalité, c'est que tant que les avocats et les avocates ne créeront pas cette fraternité, cette sororité entre eux, où ils se partagent les bonnes informations, plus en fait, ils continueront à ne pas être payés à leur juste valeur.
Ouais, je
Parce que
comprends.
là, en fait, la réalité, c'est que vous avez chacun vos clients. Il n'est pas question que. Ce n'est pas parce qu'il va te partager ses tarifs, ses honoraires, que tu vas aller sauter et lui piquer
Ils
ton
ont
client,
tout.
son client.
Ouais, c'est clair, bien sûr.
Réalité, et je pense sincèrement, et on le voit, moi j'ai été avocate, donc et j'ai encore énormément d'amis avocats et avocates, et je baigne encore beaucoup dans ce réseau-là. La réalité, c'est quand tu as un réseau d'amis, de confrères, de consoeurs, tu te partages les bonnes pratiques, tu te
Oui,
partages.
non, c'est vrai. Oui, les
Moi,
syndicats sont faits pour
encore.
ça.
Encore aujourd'hui, t'envoies un message en disant, ouais, je pensais facturer comme ça. Est-ce que tu penses que je fais plus ou que je fais moins? Les gens partagent. Ah, mais non, tu factures plus. Là, c'est pas suffisant. Ou non, bah écoute, moi, j'aurais plutôt tendance à le facturer tant. Et en fait, les gens partagent ces informations-là. Et donc, quand tu veux chercher, tu as la bonne information, tu vas la chercher auprès des personnes qui l'ont. Mais tu vas pas faire une étude de marché qui va te prendre 3 semaines. L'idée, c'est pas de faire une étude de marché pour avoir tout l'éventail de tarification possible pour un pacte d'associés. C'est d'aller te dire, OK, quelqu'un d'autre, combien facturerait s'il était dans mes chaussures? Encore une fois, c'est du bon sens en réalité.
Bien sûr. Et donc là, en fait, c'est la même, tu appliques la même méthode, en fait.
C'est exactement la même méthode.
Et du coup, parce qu'il y a quand même des fois où les gens, moi, ce contre lequel potentiellement je peux envisager de me battre un peu, c'est le truc où je perds de l'argent, c'est deux pratiques. Des gens qui font leurs actes eux-mêmes et qui me demandent juste de relire. Et ça, c'est horrible. Parce que, en fait, c'est hyper difficile de dire, en fait, mec, le temps que ça va me prendre de relire, tu vas jamais vouloir que je te le facture. Du coup, enfin, tu vois, du coup, je sais pas quoi faire, en fait. Tu vois?
Tu factures, Audrey, tu sais pas quoi faire, moi je sais quoi faire. Tu n'as pas de prestation relecture. D'accord?
N'existe
Toi,
pas.
tu mets en place une prestation relecture. Et là, tu dis, bon, bah, les relectures, j'ai décidé de mettre en place cette prestation-là, de la consacrer
Oh, merde.
et de la facturer 1 heure, 2 heures de temps. Comme ça, les gens qui viennent, ils te disent, oh, j'aimerais bien que tu me relises l'acte. Aucun problème. Pour les prestations relecture, c'est temps. Et là, on verra s'il veut que tu le relises ou que tu le rédiges toi-même, tant qu'à faire, puisqu'il va payer. Ou tu décides, tu n'as pas de prestation relecture et là tu fais une tarification au temps passé. Je suis désolée. Tu vas relire, mais relire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même que tu passes du temps,
Non, mais
que
ça, il faut
potentiellement ce sera
corriger, il faut faire les
supplémentaire,
trucs.
que donc tu vas travailler. On ne travaille pas
Et attends,
gratuitement.
parce que oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, si tu veux, c'est si tu as mal. C'est-à-dire, en fait, il t'envoie l'acte, tu parcours rapidos, et en fait, tu te dis, bon, ça va me prendre 5 heures, mais dans la vraie vie, ça ne te prend pas 5 heures. En fait, dans la vraie vie, ça te prend 10 heures. Et toi, tu dis, ta méthode dit. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je vais dire à la fin comment je l'ai géré, mais elle m'envoie l'acte, je relis et je relis. Alors, my bad. En même temps, j'avais pas. Bon, en même temps, j'avais pas besoin de prendre 3 heures pour savoir. Enfin, tu vois, my bad. Je me rends pas. Je ne. J'arrive pas à déterminer de façon précise le vrai temps que ça va me passer. Ça va me prendre. Et donc, à la place de 3-4 heures que j'avais annoncé, en fait, ça m'en prend 15.
D'accord?
On fait
Alors, moi,
comment?
mais je te dis très simplement, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut que tu assumes ta juste valeur et que tu oses et que tu n'aies pas peur de tes clients ou tes clientes. Dans ce cas-là, si tu commences à relire et tu te rends compte que là, on ne va pas du tout être dans les. On va exploser le forfait horaire qu'on avait mis en place, tu prends ton téléphone, tu l'appelles Salut Valérie, bonjour Madame Michel. Voilà, j'ai commencé la relecture de l'acte. Je vous avais annoncé une relecture en 3-4 heures. Ça ne sera absolument pas possible. En prenant connaissance de l'acte, il me faudra beaucoup plus de temps. Maintenant que j'ai un peu lu et pris connaissance de l'acte, je pronostique entre 10 heures. Voilà, dites-moi si vous voulez que je continue ou pas. C'est aussi
Ouais, et ce
simple.
que j'ai pas fait. Bon, bref,
Bah moi, j'ai
vous,
fait
j'ai
exactement la même chose il n'y a pas
fait
longtemps.
pareil. Ouais, c'est ça.
Et sur un client qui t'envoie, j'ai négocié ça avec mes bailleurs, mais vu la loi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, tu commences à fouiller, et tu y passes 3 heures, et je lui fais un mail en disant, bah voilà. Et le mec m'a répondu, c'est un client que je ne connais pas. Hein. Ok, super, merci. Bah, j'ai négocié avec mes bailleurs et terminé. Et du coup, Et du coup, tu es là, merde, attends, parce qu'il n'y a pas un moment où j'ai dit, ça sera temps. En fait, je l'ai fait du tac au tac.
Ouais, bien sûr, je
Et
comprends.
pour
Qu'est-ce qui
parvenir.
t'empêche de lui envoyer ta facture voilà.
Je ne vais pas lui envoyer une facture, là, parce qu'en fait, il a été dans sa réponse. Je n'arrivais pas à savoir, parce que comme je lui ai répondu, genre 4-5 jours après son appel, je ne sais pas s'il a négocié
Ouais,
avant
avant
mon
toi.
retour
Ouais, bien sûr.
ou. Et comme moi, lui, il m'a répondu 2 jours après grâce à mes infos. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renvoyé un mail en disant et au final, vous avez obtenu combien? Pour voir s'il a obtenu plus. Voilà.
Ouais, plus
Je sais
que les
pas.
trucs.
Non,
En
mais je veux
fait,
dire, là, c'est
ouais,
un
enfin,
exemple,
en
mais
fait.
ça m'arrive très souvent de faire ça, de copain, où d'un coup, tu te dis, tiens, question intéressante, donc tu te mets à fouiller et tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Puis après, tu réponds et tu es comme une idiote, tu n'as pas dit oui, enfin, tu n'as pas dit de prix avant. Ça m'arrive encore de faire ça. Je sais que c'est une grosse connerie, mais voilà.
Alors, ce qu'il faut te dire, c'est que quelqu'un qui pose une question à un avocat ou une avocate a normalement le bon sens de savoir que ce n'est pas gratuit. Donc,
C'est pas vrai, hein. Il y en a beaucoup qui sont pas, qui
non,
pensent qu'une
non,
question,
ils
c'est
le
gratuit.
savent. Non, c'est juste des gratteurs. Excuse-moi, Charlotte, c'est des gratteurs. Non, appelons un chat un
C'est juste
chat.
des gratteurs.
Non, je veux dire, quand tu vas chez le médecin parce que tu as mal à la jambe, tu ne vas pas
On
lui
est
dire,
d'accord.
peut-être tu peux regarder la blessure, là, je ne suis pas certain. Non, non, mais en fait, je ne voulais pas que tu me soignes. Je voulais juste que tu me
Mais
donnes un avis. Enfin, non, l'avis, c'est le fruit de ton expertise, de tes compétences, de ton expérience.
non, mais
Déjà,
ça, moi, j'en suis convaincue. Mais par contre, je pense qu'il y en a beaucoup, sans être des gratteurs, qui sont persuadés que s'ils appellent une copine de copine qui est avocate, ils peuvent passer un quart d'heure à poser des questions. Gratos, pas comme s'ils allaient voir un médecin, j'en suis convaincue. Et que
moi, je
c'est de
suis
la mauvaise
convaincue
foi.
qu'ils savent, Charlotte, excuse-moi, je réitère, ils savent, c'est juste des gratteurs à qui on donne des excuses. Je suis désolée. Tu peux appeler une copine de copine. Déjà, même mes copines, moi, je ne les appelle pas pour leur demander des trucs gratos. Si c'est le cas, ouais, on est des copines parce que je fais des trucs gratos, elles me font des trucs gratos. Il y a un lien d'amitié. Maintenant, je t'avoue que moi, si le copain d'un copain m'appelle en me disant, ouais, Insaf, t'as pas 15 minutes, il faut m'aider à négocier ma REM, avec plaisir, on met en place une séance. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je vous propose de mettre en place une séance. La séance est à 250 euros hors taxe. Est-ce que ça vous convient? Et ça aussi, tu vois, c'est une manière aussi de te responsabiliser et de ne pas rejeter la responsabilité sur l'autre. Parce que aussi, des fois, on n'a pas envie d'aborder ce
Ah
sujet-là.
oui, ça c'est sûr. Ça
C'est tes
c'est
fameuses
évident.
petites questions, Audrey.
Hein? C'est ma femme. Oui. Alors ça, j'ai réussi à régler. Alors ce truc-là dont tu parles, INSAF, ça j'ai réussi à le régler. La petite question de confrère qui,
Copain.
en toute confraternité, me demande des trucs. Donc du coup, comme j'ai une énorme, tu vois, j'ai beaucoup de clients qui sont mes avocats, j'avais plein de petites questions, tu vois. Et du coup, je me retrouvais à faire, mais je sais pas, à 2 heures, 3 heures dans ma semaine dédiée aux petites questions, mais c'était pas du, tu vois, ça allait pas du tout, quoi. Et j'avais cette espèce de danse du ventre où je leur répondais quelque chose, mais pas complètement, pour qu'ils reviennent me voir. Mais en fait, les gars venaient jamais me voir, donc du coup, j'étais hyper inconfortable. Donc maintenant, j'ai un mail tout prêt. Je dis que c'est une séance, 350 euros de l'heure, nanana, pop, pop, et puis voilà.
Et
Et
voilà.
ça marche très bien. Et ça, c'est vrai que ça marche très bien. Donc peut-être la solution, Charlotte, c'est de dire, écoute, à les potes, le pote de pote, notre truc, déjà, un,
Arrête tout
c'est
de
de jamais
suite.
s'emballer. La solution, c'est de dire, écoute, malheureusement, je n'ai pas la réponse du tac au tac, du coup, ça me demanderait du temps. Je facture 350 euros de l'heure, qu'est-ce que tu en penses?
Bah,
Non,
moi,
mais
j'ai un email qui est tout fait pour ce type de sollicitation. Hein. Vraiment.
t'écris quoi sur ton email, là, toi?
Ah ben bah non, je le
Non, c'est au
vends,
téléphone.
Audrey.
Non!
Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tu sais que... Non, pardon, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que je pensais que tu avais un email qui disait c'est
Ah, dans
une
mon email à
question.
moi. Oui. Alors, en tant
Pardon,
que coach,
en
oui.
tant que coach.
En tant que coach, il y a des gens qui me proposent souvent de prendre un café.
Voilà, c'est ça, c'est la même
Là,
chose,
voilà, c'est la
exactement.
même chose. Ouais, Insaf, est-ce qu'on peut prendre un café? J'ai une idée à te soumettre ou j'ai un sujet que je voudrais parler, blablabla. Il te tartine de compliments et ou est-ce qu'on peut déjeuner si tu veux?
Alors moi, j'en ai plein des déj, c'est énorme.
Moi, je leur réponds un email qui est tout fait, que j'ai déjà préparé. Salut, on va dire qu'on va l'appeler Micheline. Salut Micheline, merci pour ton message. Je serais ravie de t'accompagner. En revanche, je le fais toujours dans le cadre d'une séance. Pour information, la séance dure 1h30. Je la facture 250 € hors taxe de l'heure. Est-ce que ça te convient? Pardon, je
Ouais,
la
c'est
facture
ça.
250 € hors taxe. Est-ce que ça te convient? Si c'est le cas, Lucille, mon assistante qui est en copie, te trouvera un créneau.
Ouais, bah moi je fais pareil que toi. Exactement pareil.
Oui, sauf que moi, je vous parle du truc de l'appel, quoi. Bon, bref.
Oui, mais alors, du coup,
L'appel,
non, mais
alors
ça
la...
m'arrive
Et
moins
l'appel, c'est
souvent
horrible,
qu'avant.
l'appel.
Du coup, il te pose la question. Alors, du coup, moi, je maintenant, je refuse des appels. Et
Ils sont persuadés que tu as la réponse du tac au tac.
Et c'est ce que
Moi,
je
il me
te
dit,
dis,
oui,
c'est
je suis
ça.
un ami de machin, elle m'a dit que tu t'y connaissais. Et là, en plus, limite un peu méprisant parce que tu n'as pas la réponse. Ça aussi, on
Ouais,
le
bien
fait.
sûr, limite un
Ah
peu.
bon? Mais je croyais que c'était.
C'était question
Je croyais que vous
hyper
étiez
bateau.
spécialisée là-dedans. Je dis, alors déjà, non, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Mais deuxièmement, non, je n'ai pas la réponse du tac au tac à ta petite question dans la petite question dans la petite question, tu vois.
C'est
Et en fait,
ça, exactement.
il te tacle un peu. Donc, toi, tu as ton ego et tu es là. Non, non, mais attendez, je vais trouver la réponse. Et je me suis fait avoir comme ça, par ego.
Alors, pour tous ceux qui t'appellent Charlotte, moi, ma
Wow.
technique, ma meilleure parade, quand les gens m'appellent et me disent, oui, je suis le pote de pote de pote, est-ce que je voudrais te parler rapidement d'une négo ou là, j'ai une petite question pour toi. Merci. Alors là, j'allais entrer en réunion. Ce que je te propose, c'est que
Moi-même.
tu m'envoies un email et on voit comment on fait dans les prochains jours. Je te trouve un créneau.
C'est clair. C'est clair.
Ah
Bon,
ouais.
donc du coup, ça nous permet de revenir. Donc, il faut quand même dire un truc peut-être qu'on a sur lequel on n'a pas assez insisté parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Que nous aussi, enfin, moi dans mon activité, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais en fait, les gens ont toutes les choses. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que c'est quand même les mêmes triggers humains. C'est les associés entre eux, c'est-à-dire un associé qui a l'impression de faire plus que les autres et que ce travail qui est fait, il n'est pas rémunéré parce que dans le partage de la valeur du cabinet, bah, ça, c'est pas rémunéré. Autre situation que dans le même écosystème, autre situation que je rencontre beaucoup, c'est non pas que, enfin, c'est qu'il y en a un qui fait beaucoup de choses, donc il produit moins de chiffre d'affaires, et comme il n'y a que le chiffre d'affaires qui est la base de la rémunération des associés, eh ben on se retrouve avec quelqu'un qui est frustré parce que il a pas suffisamment à la fin du mois et qui correspond pas aux efforts qu'il fournit et à la valeur qu'il génère au cabinet. Et en fait, ce que je comprends, mais d'une certaine façon, ça rejoint quand même ce que je dis régulièrement, ça tombe bien, c'est que à la différence du contrat de collaboration ou à la différence de la convention d'honoraires que tu as avec ton client, rarement entre les associés, il y a le deal de départ dont tu parles qui nous permet de dire est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis en dessous, est-ce que ce deal a été respecté. Mais comme il est rarement écrit parce que les avocats ne prennent pas le temps d'écrire des pactes d'associés avec ce que l'on demande aux uns et aux autres et comment est-ce qu'ils vont être rémunérés, bah du coup, tu te retrouves avec un défaut de point de départ, en fait.
Ouais.
C'est ça le problème.
C'est un vrai problème. Donc, le premier conseil qu'on donnera aux avocats et aux avocates qui nous écoutent, c'est de leur dire, s'il vous plaît, ne soyez pas les cordonniers les plus mal chaussés, mettez en place des pactes d'associés, c'est hyper important. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on est dans cette situation de frustration, où on se rend compte qu'on apporte beaucoup de choses qui ne sont pas chiffrables immédiatement, comme la facturation, et qu'on a le sentiment ou la preuve d'ailleurs que cette contribution-là n'est pas valorisée à sa juste valeur, on provoque une discussion avec les associés. On provoque une discussion avec ses associés, on leur expose le sujet, et on leur dit, bon, bah, dans ce cas-là, combien, moi, j'estime que ce que j'apporte avec ce travail-là, qui n'est pas du travail chiffrable, j'estime que j'apporte tant de valeur à l'entreprise, notre cabinet d'avocats, qui est quand même une entreprise, hein, est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, on discute et on marque un chiffre et on chiffre cet apport-là de valeur et tout le monde est d'accord et on continue comme ça dans le futur. Tu vois ce que je veux dire?
Mais je vois très bien. Et en fait, ce dont je me rends compte en discutant avec toi, c'est qu'en fait, tout est chiffrable d'une certaine façon. Parce que ce temps que je passe à envoyer, je ne sais pas, alors bon, c'est pas moi qui fais ça au cabinet, mais tout le temps qu'il passe à envoyer... les trucs de gestion, à gérer les impayés, à gérer les trucs et tout, c'est du temps que moi, je ne passe pas, en fait, dans la vraie vie.
Ouais.
Mais le problème, c'est que c'est quand même mal valorisé dans nos métiers et c'est un peu dommage. C'est quand même le...
Mais ce qui est important aussi de dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est que, attention, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas.
Ouais.
C'est pour ça qu'il est important de mesurer. Alors, ça ne veut pas dire que vous venez avec votre réglette et vous dites bah, l'heure et demie que je passe à discuter avec l'expert comptable, je la facture tant. Mais un chiffrage à la louche, ça permet à tout le monde, enfin voilà, ça permet à tout le monde de mettre en place une dynamique qui est saine, sereine dès le départ, d'éviter les accros, d'éviter les engueulades et d'éviter aussi les impayés du cabinet envers soi-même, quoi. Donc, on se met tous d'accord sur la contribution générale qu'on apporte. Et sur la rémunération du coup qu'on reçoit ouais. en contrepartie. Et encore une fois, clarifier les choses, revenir sur un deal, en parler, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avec le bon sens. Si vous n'arrivez pas à le faire, il y a des gens qui peuvent vous aider à le faire. Mais il faut absolument, moi par exemple, mais il faut absolument voilà, ne pas avoir peur d'engager des discussions parce que en fait, plus vous mettez la poussière sous le tapis et plus après ça devient très compliqué de régler les problématiques.
Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir partagé un certain nombre de conseils. Comme l'épisode est dense, on peut quand même rappeler aussi que tu as ton podcast dans lequel tu partages énormément de conseils de renégociation et tout. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui m'avait attiré, moi, pour qu'on fasse cet épisode et pour qu'on travaille avec Charlotte. Enfin, tu vois, à la bonne écoute, enfin, au bon déroulement, pardon, de cet épisode, c'est que tu partages beaucoup de contenu gratuit et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable et qui va complètement dans la lignée de ce que tu disais, c'est-à-dire accompagner tout le monde pour que tout le monde soit en ligne avec ses objectifs et l'argent qui ressort de son activité professionnelle.
Et puis, on peut recommander le podcast de Mathieu Stéphanie.
Ouais, on peut recommander un autre interview que tu as fait, donc plus généralement sur la négociation salariale, sur la martingale avec Mathieu Stéphanie. J'en profite à la fin de cet épisode pour dire, bon, ça n'aura pas trop de valeur si on nous écoute dans 100 ans, parce que bien sûr, notre épisode durera 100 ans, mais pour dire qu'on a bientôt à la CE Enfin, on organise bientôt une séance de coaching à la CE en mai. Ça, pour aider les gens dans le cadre de leur développement de leur carrière. Et donc, si ça vous intéresse de pitcher auprès de gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des cabinets d'avocats, vos projets pour vous aider et vous accompagner, on sera ravis de vous y retrouver.
J'ai juste...
Voilà, les amis. Pardon.
Juste dire quelque chose, c'est que je me rends compte finalement qu'on n'a pas du tout parlé de la femme. Enfin, on est resté sur un coaching généralisé, mais enfin voilà, je sais pas si
est-ce que on tu peux un épisode si vous voulez.
Ouais, on fera un épisode à ce celle-là. Bon, en tous les cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup Insaf.
Merci Insaf.
Merci à vous. J'ai juste en profiter moi pour appeler les gens, bah, évidemment à suivre le podcast, mais aussi leur rappeler que j'ai des formations qui sont dédiées pour les avocats et les avocates et qui les aident voilà à mettre en place leur politique d'honoraires. J'ai plein de templates qui sont prêts pour les aider à aborder les discussions qui sont difficiles et voilà donc je les accompagne de manière générale pour être rémunérés à leur juste valeur.
Merci à tous,
à bientôt.
À bientôt.